cette opportunité que tu nous fais d'être devant toi, devant ton peuple. Nous voulons, Seigneur, te recommander ces moments, que tu puisses, Seigneur, nous toucher au travers de ta parole. Oui, Seigneur, ta parole est vivante et efficace, et elle juge les pensées du cœur. Dispose-nous, Seigneur, à t'écouter. Utilise-moi, Seigneur, que je puisse être un canal pour ton peuple, que je puisse diminuer et que tu puisses prendre, Seigneur, la hauteur. Sois béni, sois élevé, au nom de Jésus. Amen. D'emblée, nous allons lire dans Deutéronome 7, 6 à 8. Vous êtes en effet un peuple consacré au Seigneur votre Dieu. C'est vous que le Seigneur a choisi parmi tous les autres peuples de la terre pour être son bien le plus précieux. Si le Seigneur s'est attaché à vous et vous a choisi, ce n'est pas parce que vous étiez un peuple plus nombreux que les autres. En fait, vous êtes un peuple peu nombreux par rapport aux autres, mais le Seigneur vous aime et il a accompli ce qu'il a promis à vos ancêtres. Grâce à sa force irrésistible, il vous a fait sortir du pays où vous étiez esclaves. Il vous a arraché aux griffes du Pharaon, le roi d'Égypte. Ce passage nous est familier et il met au premier plan l'amour de Dieu. Dieu a choisi l'Israël comme son peuple. Il intervient pour eux dans l'histoire. Il sauve, il les pardonne comme un père. Et de cet amour de Dieu découle notre amour aussi pour lui. Quand on lit dans Deutéronome 6, 5, la version français courant nous dit que tu dois aimer l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est pourquoi aimer Dieu est vraiment lié à garder ses commandements, à l'obéir, à le servir, à marcher dans ses voies et à haïr le péché. L'amour de Dieu implique aussi l'obéissance, la fidélité et le respect. Et c'est celui qui expérimente cet amour éprouve ce besoin vraiment de témoigner à son prochain. D'où ce matin, je voulais parler de l'amour du prochain. On peut se poser la question, qui est mon prochain? Dans la Bible, mépriser son prochain est un péché. Il ne fallait surtout pas méditer le mal contre son prochain. Donc le prochain peut être un ami, un proche, un compagnon. Amen. L'amour du prochain concerne d'abord les compatriotes, mais peut aussi s'étendre à l'étranger, dans le sens global, ça veut dire à un inconnu. Et on a un bon exemple de mon prochain dans le livre de Luc 10, 30 à 37. Je vais lire rapidement. Jésus répond à un docteur de la loi. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains des brigands qui les dépouillèrent et les enchargeaient de coups. Se retirèrent, le laissant à demi-mort. Or, il arriva qu'un prêtre descendait par le même chemin. Il vit cet homme et passa outre. De même, un lévite, étant venu dans ces lieux, s'approcha, le vit et y passa outre. Mais un samaritain qui était en voyage arriva près de là, et le voyant fut touché de compassion. Il s'approcha, bandant ses plaies, après avoir versé de l'huile et du vin, puis il les mit sur sa propre monture. Le mena dans une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, tirant deux deniers, il les donna à l'autre et lui dit « Aie soin de cet homme, et tout ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai en mon retour. » Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain? L'homme qui tomba entre les mains des brigands. Le docteur répondit « C'est lui qui a pratiqué la miséricorde envers lui. » Ce passage nous montre vraiment qui est... Qu'est-ce qu'on attend par le prochain? Donc le prochain, c'est celui qui a besoin de mon aide. Celui à qui je peux témoigner de la bonté. Donc nous sommes appelés à faire un pas vers l'autre, aller vers les autres, les témoigner, bien que ce ne soit pas facile. C'est à nous d'aller vers les autres pour témoigner cet amour envers notre prochain. Et des fois, il nous manque quelque chose pour faire ce pas. Et il y a trois points que je voulais évoquer qui peuvent nous aider à faire ce pas pour aller vers son prochain. Et là, on va encore lire, on reste à Jéricho. Cette fois, c'est dans Marc 10, 46 à 42. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée mendiant et aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il cria encore plus fort, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelle-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son menton et s'élevant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je fasse ?» Rabouni lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue !» Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé !» Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. De ce texte, j'aimerais tirer trois points qui peuvent nous aider à faire ce pas vers l'autre. Le premier point, c'est comprendre qui on est. La parole de Dieu nous dit là, Bartimée, fils de Timée, il était mendiant et il était aveugle. Et il avait ce manteau qui le caractérisait pour cela. Vous seul pouvez être vous. Et moi seul peux être moi. Ça veut dire que Dieu nous a créés tous différents. Personne n'a les mêmes caractéristiques qu'un autre. Certains ont des ressources athlétiques exceptionnelles ou une condition physique excellente. D'autres sont doués en mathématiques, en musique ou en mécanique. Donc nous sommes uniques. Donc c'est à nous d'amener dans ce corps de Christ ce que le Seigneur attend. Tout cela pour dire que personne ne pourra jouer le rôle particulier que notre Seigneur nous a réservé dans son corps. Donc chacun de nous a un rôle à jouer dans ce corps-là. Et il y a quelqu'un qui me disait qu'il connaît des triplés. Et ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. S'ils n'ont pas la même coiffure, on ne saura pas les reconnaître. Mais moi, je dirais que chacun a ses caractéristiques particulières. Parce que ça, c'est nous qui sommes dehors qui voyons que ces triplés se ressemblent. Mais ceux qui vivent au quotidien avec, ils voient bien les différences. Ils peuvent bien dire telle ou telle chose n'est pas correcte par rapport à nous qui sommes de dehors. Il y a une question qui me vient là, qui suis-je? Quel genre de chrétien je suis? Bartimée a reconnu qu'il était mendiant, il n'était rien. Et dès qu'il a vu Jésus, il a vu c'est mon jour aujourd'hui. Et moi, qui suis-je? Nous avons chanté le dernier chant, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ ou je suis en Christ. Est-ce qu'on a réalisé ces paroles? Parce que quand on réalise vraiment ces paroles, on vivra des miracles. On aura une vie de faveur et on marchera avec puissance. Amen. Réalisons vraiment ces paroles quand on les chante. Qui suis-je? Ça, c'était le premier point, comprendre qui on est. Je passe au second point. C'est au verset 49. Jésus jeta et dit, appelez-le. Il appelèrent l'aveugle et lui disant, prends courage. Prendre courage, c'est ça le deuxième point. Le courage n'est pas une vertu stoïque, mais la démonstration de la foi en Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de faire bonne figure à mauvaise fortune, mais bien plutôt de voir dans chaque opposition une possibilité de victoire. Personne ne peut accomplir l'œuvre de Dieu ou sa mission s'il manque de courage. Et le courage est très souvent liée à l'enthousiasme. Donc nous avons besoin de cette force de conquête pour pouvoir avancer avec Jésus. Il a fallu beaucoup d'efforts à Bartimée pour qu'il puisse prendre courage, s'élever et aller là où le miracle se trouvait. Bien que les circonstances adverses pouvaient le faire taire. Ceux qui étaient autour de lui, ils se disaient de se taire, mais lui criait encore plus fort, il criait encore plus fort. Donc nous pouvons voir que Dieu utilise aussi les épreuves de chaque jour pour pouvoir développer nos muscles spirituels. Lui-même, il est le Dieu de la percée et il nous apprend à percer au-delà des difficultés. Donc, les efforts que nous faisons pour grandir spirituellement, Dieu saura les employés pour nous rapprocher de lui. Bartimée a pris son manteau qu'il identifiait comme aveugle et le jeta. Il a dit, ça suffit aujourd'hui, j'en ai plus besoin. Mais il y a une question qui me vient encore. Quel est ce manteau qui nous empêche, nous, d'aller vers les autres, vers notre prochain? Est-ce que c'est le découragement? Normalement, lorsqu'on se sent découragé, cela provient d'un manque de mouvement vers l'avant. Par exemple, vous avez l'habitude de tous les matins de faire 30 minutes de sport. Jusqu'à aujourd'hui, vous vous sentez fatigué et vous n'avez pas pu faire. Ça montre que vous êtes découragé parce que vous n'avez pas avancé vers votre objectif. Est-ce que c'est la fatigue qui nous empêche d'enlever notre manteau? Nous avons tous des moments de fatigue et d'épuisement, mais c'est dans ces moments-là que nous avons aussi besoin d'être encouragés. Alors le Seigneur veut t'encourager aujourd'hui. Il veut remplacer nos fardeaux par la joie, par la paix, par le repos. Il y a un verset qui nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est dans Marc 11, 28. Je pense que le bien-aimé l'a bien dit quand, dans sa prière. Est-ce que c'est le découragement qui nous empêche? Est-ce que c'est la fatigue? Est-ce que c'est le doute? Concernant le doute, il y a un verset qui nous dit dans Jacques 1, 6, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et de l'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Donc le doute n'a pas de place en nous. Si ce n'est pas le découragement, ni la fatigue, ni le doute, est-ce que c'est la peur qui nous empêche d'enlever ce manteau? L'esprit de peur ne doit pas contrôler notre vie, nous empêcher d'entrer dans le plan de Dieu. C'est pour cela que Dieu dit de choisir la foi plutôt que la peur. Et la Bible nous montre que des personnages extraordinaires tels que Moïse, David ou Élie ont eu peur. Ils ont dû faire face à certaines craintes, à certains doutes dans leur vie. Mais s'ils sont arrivés à atteindre la victoire, c'est parce qu'ils se sont appuyés sur Dieu. On se souvient de David qui allait combattre Goliath. Il a dû sûrement avoir peur à un moment ou à un autre, ce qui est tout à fait normal, parce qu'il était face d'un géant, de quelqu'un qui était plus fort que lui. Donc, à un moment ou à un autre, il a dû avoir peur. Et sa première bataille, c'était d'aller combattre la peur. Et une fois la peur écartée, le plan de Dieu a pu s'accomplir dans sa vie et il est allé jusqu'à la victoire de vaincre Goliath. Si ce n'est pas le découragement, la fatigue, le doute, la peur, est-ce que c'est la honte? Est-ce qu'on a honte d'enlever notre manteau? Il y a encore un verset qui dit, quiconque aura honte de moi dans mes paroles et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui. Donc la honte n'a pas aussi de place en nous. Il y a aussi encore une dernière chose que je peux évoquer, c'est le regard des autres. Nous vivons dans une société où nous sommes constamment confrontés au regard des autres. Et dans cet environnement, nous sommes appelés à évoluer, à trouver notre place et apprendre à nous découvrir. Mais cela n'est toujours pas facile, parce que tout est fait pour nous influencer dans notre façon d'agir, dans notre façon d'être et dans notre façon de penser. Et pour surmonter ça, il y a aussi un autre verset qui dit dans le psaume 139, 14, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Donc au lieu de voir le regard des autres, voyons plutôt le regard de Dieu. Qu'est-ce que Dieu, comment Dieu nous voit? Qu'est-ce que Dieu dit sur nous au lieu de regarder les autres? Je me souviens, ça commence déjà tout bas. Si tu as un petit enfant, il veut faire une bêtise, il te regarde. Hein. Si tu dis rien, eh bien, il a fait. Et puis je me souviens aussi de mon papa. Juste un regard qui te lançait, tu pouvais savoir s'il est content ou pas. Donc le regard des autres n'a pas de place pour nous influencer ou pour aller vers notre prochain. Donc que ce soit les découragements, les fatigues, les doutes, les peurs, les regards des autres, tout ça ce sont des freins qui nous empêchent d'accomplir le plan de Dieu. Faisons plutôt comme David, en s'appuyant sur Dieu et non sur nos propres forces. Et si on n'arrive toujours pas, demandons de l'aide. Il y a des frères dans l'église. On peut prier ensemble, on peut prier les uns pour les autres. On peut prier aussi soi-même. Nous avons un Dieu compatissant, un Dieu miséricordieux, un Dieu qui nous écoute. Amen. Donc, il y a le troisième point. Après, se comprendre soi-même, prendre courage. Et la suite du verset dit, prends courage, lève-toi. C'est le moment de se lever. C'est le moment de se lever. Il y a un verset qui dit, c'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil, car le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Même si Bartimée avait entendu parler du ministère de Jésus, mais c'est seulement lorsqu'il est passé tout près qu'une lumière d'espérance naquit dans son cœur. Et on peut se demander pourquoi on ne se lève pas dans beaucoup de situations. Souvent, il y a des personnes dans le besoin qui sont devant nous, à côté de nous. Mais nous manquons ce courage-là pour aller vers eux. Et pour ça, on trouve toutes sortes d'excuses. Je n'ai pas le temps, je dois prendre mon bus, je suis pressé. Il y a tout un tas d'excuses. Et pourtant, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à y aller. Et puis, le Saint-Esprit ne peut que nous fortifier pour pouvoir y aller. Le cri de Bartimée fut si fort qu'il arriva aux oreilles de Jésus, qui s'arrêta et le fit appeler. Le messager lui dit, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Donc, Bartimée a compris qui il était, il a pris conscience de soi, il a pris courage, il s'est levé et il est parti vers Jésus. Et qu'est-ce qui a suivi après? Il était sauvé. Et par la suite, il a suivi Jésus. Donc quand on s'élève, quelque chose doit suivre. Sinon, on fait du surplace. C'est comme si tu t'asseyes, tu t'élèves, tu ne fais rien. Mais quand la parole de Dieu dit de s'élever, c'est pour entrer en mouvement, c'est pour aller quelque part. Et dès qu'on bouge, soyons sûrs que le Seigneur nous accompagne. Amen. Je vais conclure avec un verset dans Éphésiens 5, 27. La Bible nous dit en effet que Jésus, lorsque Jésus reviendra, il prendra avec lui son épouse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Il est intéressant d'observer que dans ce monde, les épouses des présidents s'occupent souvent des questions humanitaires pour aider les plus démunis. Mais que cela puisse vraiment nous servir d'exemple, que cela puisse nous interpeller, nous qui sommes l'Église, qui sommes l'épouse d'un roi. Amen. Nous sommes l'Église d'un roi, pas de n'importe qui, du roi des rois. Donc nous avons vraiment du travail à faire sur ce côté-là pour pouvoir aller, comme dit Jacques, la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur tristesse et à ne pas se laisser souillé par le monde. Amen. C'est ce que le message que j'avais pour ce matin concernant l'amour du prochain, que nous puissions vraiment connaître qui on est, prendre courage, se lever pour aller vers l'autre, témoigner de l'amour à l'autre. Le Seigneur attend cela de nous, peu importe les races, peu importe où on est, peu importe quand on fait. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux pasteurs ou aux évangélistes, à qui que ce soit, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Et si on n'arrive pas, prions le Dieu. Dieu est toujours là, il peut toujours nous guider dans quoi que ce soit. Je vais prier. Seigneur, je te bénis pour ta parole. Merci, parce que ta parole reste la même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu, c'est Dieu qui est toujours là, qui est toujours compatissant. Oui, ta parole dit que tu fais toujours toutes choses en son temps. Voilà pourquoi nous attendons à toi. Merci de toucher nos cœurs. Merci Seigneur de faire des grandes choses dans nos vies. Merci de nous accompagner Seigneur. Nous voulons avoir entièrement confiance en toi pour que Seigneur tu puisses faire des grandes choses, pour que nous puissions vraiment aller vers ton prochain, vers mon prochain. Et t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée et aimer aussi notre prochain comme nous-mêmes. À toi la gloire, l'honneur pour le siècle des siècles. Amen.